Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le bilan historique de la sécurité routière en 2018 en France métropolitaine. Jamais le nombre de morts n'a été aussi bas. Les 80 km/h semblent bien marcher. Le Premier ministre Édouard Philippe.
Les mesures qui ont été mises en place l'année dernière, le 80 km/h, les autres, ont joué leur rôle dans cette diminution. Je crois donc qu'il est tout à fait légitime de discuter de ce sujet, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition.
Et pourtant, on s'oriente bien vers un aménagement, assouplissement des 80 km/h en regardant au cas par cas dans les départements. Bonne ou mauvaise idée, nous verrons cela avec l'invité du 13h, Anne Lavaux, la déléguée générale de l'association Prévention Routière. Un incendie criminel dans les locaux de France Bleu, Radio France, à Grenoble. Nous irons sur place avec Christophe Vincent. Nous irons également à Tarascon. Un détenu s'est échappé au moment de son transfert au tribunal. Cette dernière minute, le MEDEF suspend sa participation aux négociations sur l'assurance chômage. Ça coince, semble-t-il, sur les contrats courts. François-Xavier Bellamy, officiellement tête de liste des Républicains aux Européennes. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Bellamy, c'est la droite versaillaise. Pour ne pas fixer cette image, deux centristes nommés à ses côtés.
Oui, une figure montante de la droite parisienne, Agnès Evren, et puis un eurodéputé sortant, Arnaud Danjean. Il avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire.
A tout à l'heure pour les détails. À suivre également dans ce journal et sur franceinter.fr, quand les billets ne valent tellement plus rien qu'on les tisse pour en faire ironiquement des porte-monnaies. Ça se passe au Venezuela. 6 morts vraisemblablement à cause de la grippe dans un EHPAD, dont 2 soignants. Nous verrons cela. Les cigarettes également vendues en Afrique, plus toxiques que les autres, selon le rapport d'une organisation suisse. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
La météo aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest.
Effectivement, une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse intéresse l'ouest du pays. Elle va s'étirer de la Bretagne jusque vers la Nouvelle-Aquitaine. En revanche, il va encore neiger dans les Pyrénées, augmentant ainsi le risque d'avalanche. Et puis près des frontières de l'Est, prévoyez encore un régime d'averses de neige. Partout ailleurs, le ciel sera partagé entre belles éclaircies et cumulus inoffensifs. Et puis côté température, les maximales afficheront 3 à 6 dans le nord et le nord-est, 7 à 10 sur la moitié ouest et comptez 9 à 14 dans le sud-est.
D'autres détails autour de 13h30. Avant cela, le temps du carnaval approche. Celui de Dunkerque se prépare déjà. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Depuis qu'on mesure le nombre de morts chaque année sur la route, jamais il n'a été aussi bas en France métropolitaine que l'année dernière. 3259 tués, c'est 189 morts de moins qu'en 2017. Et tous les indicateurs sont à la baisse. Le nombre d'accidents, de blessés hospitalisés. C'est le Premier ministre qui a présenté ce matin ce bilan. Merci les 80 km/h, cette mesure dont les mauvaises langues disent que le président Macron l'a qualifiée de connerie, Julie-Marie Lecomte.
Si tant est qu'Emmanuel Macron ait jamais dit en privé que les 80 km/h étaient, je cite, une connerie, ce que d'ailleurs l'Élysée dément fermement, ce qui est sûr, c'est qu'Édouard Philippe, lui, a la conviction qu'il serait stupide d'y renoncer.
Il serait inouï de prendre des décisions qui auraient pour impact de faire augmenter le nombre de morts et le nombre d'accidents sur la route.
Car 116 vies ont été épargnées sur le réseau secondaire depuis le 1er juillet, insiste Édouard Philippe. Publiquement, Emmanuel Macron laisse pourtant entendre qu'il pourra y avoir des aménagements, comme un hiatus, pas du tout, assure le Premier ministre.
Il n'y a aucun bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre. Ce n'est pas le sens des institutions. Et en Suisse, ce n'est pas le genre de la maison. Toutes les décisions que je prends, elles font l'objet de discussions intenses avec le président de la République. Et nous avons pris cette décision. Et là encore, si vous me permettez cette expression, ce n'est pas le genre de la maison de ne pas assumer.
Le mois prochain, tous les présidents des conseils départementaux auront sur leur bureau les résultats qui les concernent. Édouard Philippe avertit, nous avons pris nos responsabilités, à eux de prendre les leurs. À Coubert, Romain Luquins, Julie-Marie Lecomte, France Inter.
Invité de ce journal, Anne Lavaux, la déléguée générale de l'association Prévention Routière. Bonjour madame.
Bonjour.
2018, année historique, 3259 tués seulement, avec tous les guillemets du monde. Comment analysez-vous ces chiffres, madame?
Eh bien, effectivement, ces chiffres sont des chiffres qui satisfont notre association, même si notre premier objectif, c'est l'objectif zéro, c'est-à-dire plus de tués, plus de blessés graves sur les routes de France. Mais le fait que, effectivement, en 2018, on ait vu cette espèce de plancher enfin céder, ça tord le cou, vous savez, à tous ceux qui nous disaient « Ah non, mais de toute façon, c'est pas possible, on peut pas faire mieux, la mortalité peut pas descendre ». On a quand même 9 tués par jour sur les routes de France, on peut toujours faire mieux. Et les résultats de 2018 démontrent qu'effectivement, on peut faire mieux.
Vous dites bravo les 80 km/h ?
Alors, Bien sûr que les 80 km/h ont une part de, on va dire, responsabilité dans ces résultats, mais pas seulement. Il y a tout un faisceau de mesures qui ont été prises et d'actions de prévention qui ont été faites par des associations comme les nôtres sur d'autres fléaux, comme par exemple le téléphone, comme par exemple l'alcool. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs CISR, dont un CISR en janvier 2018 qui annonçait cette fameuse mesure du 80 km/h.
CISR, Comité interministériel sécurité routière.
Sécurité routière, merci de le préciser.
Je vous en prie.
Et donc, parmi les mesures annoncées, il y en a quand même beaucoup qui ont fait baisser également la sécurité. Je peux par exemple citer une mesure qui nous avait fait beaucoup parler, y compris à votre antenne à l'époque. C'est le fait que désormais, les chefs d'entreprise sont obligés de désigner le conducteur d'un véhicule d'entreprise ou d'un véhicule de fonction. Mmh. Eh bien, on sait que ça a contribué aussi à une baisse de l'accidentalité, donc de la mortalité.
Alors,
pour notre association, et comme pour tous les gens qui font sérieusement de l'accidentologie, eh bien, on sait qu'une mesure comme le 80 km/h, il va falloir plusieurs années pour analyser les corpus. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand la mesure a été mise en place, il y a eu une clause de revoyure au 1er juillet 2020, parce qu'on sait qu'à minima, il faut au moins 2 ans d'analyse des données pour vérifier si, en effet, la mesure est efficace. Donc, donnons le temps à cette mesure de s'installer, de démontrer son efficacité, et ensuite, les Français seront tout à fait favorables à rouler à 80 km/h.
Et le Premier ministre dit qu'on va regarder ça en détail département par département. Alors néanmoins, ce qui est dans les tuyaux, entre guillemets, Anne Lavaux, c'est éventuellement, après le grand débat, un aménagement de ces 80 km/h, un assouplissement. On regarderait au sein des départements chaque route, discussion entre les préfets et les présidents de conseils départementaux. On a soumis cela à Dominique Bussereau, le président du conseil départemental de Charente. Il préside aussi l'association des départements. Il a été ministre des Transports. Écoutons-le et puis je vous interrogerai ensuite, Anne Lavaux.
Le 80 à l'heure systématique tel qu'il a été fait peut être à modier sur un certain nombre d'axes. Vous voyez, moi, dans mon département, il y a en ce moment une agressivité des sangliers extraordinaire. Il y a des axes où c'est peut-être même pas 80 la bonne vitesse, c'est 70. Voilà, donc on se met autour d'une table dans chaque département, le préfet, le président du département, le colonel de pompiers, le colonel de gendarmerie, nos techniciens. Et on regarde au cas par cas ce qu'on peut faire d'intelligent. C'est ce qu'on avait demandé au Premier ministre dès le mois de novembre. On lui avait dit, ça va coûter cher, et donc tous les départements sont en train d'envoyer la facture à leur préfet, des changements de panneaux, des changements de lignes blanches. Ben, si on peut améliorer les choses et remettre un peu de bon sens, ça serait pas plus mal.
Édouard Philippe est moins rigide ?
C'est pas une question de rigidité. L'objectif, c'est moins de morts sur les routes. Hein. On peut continuer à améliorer les chiffres et le faire dans un état d'esprit constructif de tous les Français.
Un propos recueilli par Yael Gauz, Anne Lavaux, vous qui êtes déléguée générale de l'association en prévention routière. Que dites-vous de ce qu'on vient d'entendre ?
Bien, je partage totalement l'objectif qui a été souligné par Dominique Bussereau, c'est-à-dire moins de morts sur la route. Alors, 3 choses par rapport à ce qu'il vient de dire. La première, c'est une question de lisibilité. Si la main est donnée à tous les élus de modifier les limitations de vitesse sur leur territoire, on va perdre l'efficacité d'une mesure qui est lisible. C'est-à-dire que on a souvent d'ailleurs, vous savez, nous, notre association, elle est implantée sur l'ensemble du territoire, dans tous les départements. Et on nous remonte beaucoup de choses, on fait 40 000 actions par an. Donc on voit les Français, on discute avec eux, on fait le grand débat sur ce sujet-là en permanence. Et qu'est-ce qu'on nous remonte ? On nous dit, on ne sait jamais à quelle vitesse il faut rouler, ça change tout le temps. Imaginez que chacun ait la main sur son propre réseau, ça changera encore davantage.
Donc petit 1, lisibilité. Le petit 2.
Ça peut perdre la lisibilité. La deuxième chose, c'est que l'accidentologie, c'est une science qui est un peu contre-intuitive. Très naturellement, quelqu'un, et peut-être les élus partagent ça, va dire, moi j'ai une belle route bien droite, avec un bel enrobage, pourquoi limiter la vitesse à 80 km/h ? Eh bien parce que justement, ce sont sur ces routes très roulantes qu'il y a le plus d'accidents et que la vitesse tue le plus. Donc notre association qui a créé un label qui s'appelle Ville Prudente et qui travaille avec les élus sur l'accidentalité et la sécurité routière, eh bien nous sommes à la disposition des élus pour réfléchir avec eux sur ce sujet de l'accidentalité et faire en sorte que le caractère très contre-intuitif de l'accidentologie soit rebattu. Et puis, peut-être une dernière chose
en
par
un
rapport
mot,
à ce sujet-là. En un mot, nous sommes à la disposition de tous ceux qui veulent travailler sur ce sujet et travailler sur le sujet sur le territoire de leur commune.
Merci Anne Lavaux d'avoir répondu à nos questions. Après donc cette annonce, le chiffre de la matinée, 3259 tués en 2018 sur les routes métropolitaines, ce qui est un plus bas historique. Cela aussi, ça dépend des départements. L'aide sociale à l'enfance, pas assez efficace, à tel point qu'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance vient d'être nommé, Aurélien Taquet. Première conférence de presse ce matin. Un chiffre pour attester que l'aide sociale à l'enfance ne fonctionne pas bien. Un quart des SDF les plus jeunes, moins de 30 ans, sont d'anciens enfants placés. Alors, quelle piste de réforme, Martin Bartoletti ?
Une stratégie développée en trois axes ce matin par le tout récent secrétaire d'État qui parle d'une lutte contre les inégalités de destin. Premier axe, le soutien et l'accompagnement aux familles les plus fragiles. L'autre point important de ce plan nous concerne tous, selon Adrien Taquet. Il a insisté sur la nécessité de repérer et de créer un référentiel pour la détection des maltraitances sur les enfants. Enfin, le gouvernement veut garantir davantage les droits fondamentaux des enfants avec, par exemple, une prise en charge à 100% des parcours de soins après avoir défini les besoins spécifiques des enfants placés qui, pour certains, souffrent de troubles du développement. Puis au niveau de l'éducation, le gouvernement envisage de placer des référents de la protection de l'enfance dans les rectorats pour prévenir le décrochage scolaire. Pour tout ça, pas de budget précis. La ministre de la Santé évoque un plan global. Les moyens seront donc alloués aussi bien par le ministère de la Santé que celui de l'Éducation nationale. L'État supervise, mais c'est bien les départements qui doivent agir. Égalité de traitement ne veut pas dire centralisation, selon Agnès Buzyn.
Martin Bartoletti en direct du ministère de la Santé. 308 000 enfants sont actuellement pris en charge par les services de protection de l'enfance. Dans le débat également, il y a ces deux questions. Faut-il davantage accompagner les anciens enfants placés après leur sortie, même à l'âge adulte, ou peut-être recentraliser l'aide à l'enfance qui dépend, on le disait, des départements. La recentraliser, c'est ce que souhaite l'invité de Mathilde Munoz ce matin sur France Inter. Il s'appelle Lies Loufoque, lui-même ancien enfant placé. Il est membre du Conseil national de la protection de l'enfance.
On a 101 départements et 101 politiques publiques en matière de protection de l'enfance différentes. À Paris, par exemple, un jeune majeur qui va avoir 18 ans va pouvoir bénéficier d'un contrat jeune majeur, c'est-à-dire d'être accompagné au-delà de sa majorité, de continuer d'être protégé au-delà de sa majorité pour lui permettre de poursuivre ses études. Mais si ce gamin avait eu la malchance de naître, par exemple, dans les Yvelines, tiens, qui est un exemple très concret, et ben si ce gamin avait eu la malchance de naître dans les Yvelines, il n'aurait pas eu de contrat jeune majeur et à 18 ans, il se serait retrouvé à la rue.
Donc il faut recentraliser la politique.
Il faut, moi je pense, et je suis favorable à une recentralisation de cette politique publique. C'est pour ça que ce secrétariat d'État, c'est un signal très fort envoyé. C'est le retour de l'État dans la politique publique de protection de l'enfance. Et ça, c'est impératif aujourd'hui de renationaliser la protection de l'enfance, de réharmoniser les dispositifs pour permettre une société plus juste et plus égalitaire entre les enfants.
Voilà pour ces propos tenus ce matin au micro de Mathilde Munoz sur France Inter pour ces pistes sur l'aide à l'enfance insuffisamment efficace en France. Le jour de l'anniversaire de Nicolas Sarkozy, 64 ans aujourd'hui, la droite se met en ordre de bataille pour les européennes. Et c'est bien, comme annoncé, François-Xavier Bellamy qui conduira la liste. Il est jeune, il a 33 ans, il est brillant, normal sup, à grec de philo. Il est adjoint au maire de Versailles. Son profil, c'est celui d'une droite tradie, ce qui est son droit le plus strict, mais cela fait grincer des dents au sein des Républicains. Alors, on le disait dans les titres, Élodie Forêt, aux côtés de François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez place deux personnalités plus centristes.
Oui, comme une réponse à tous ceux qui l'accusent de vouloir rétrécir le parti, Laurent Wauquiez équilibre le choix de François-Xavier Bellamy avec ce trio aux sensibilités diverses, derrière le philosophe conservateur, une femme, Agnès Evren, chargée de la culture à la région Île-de-France, un temps porte-parole du mouvement libre de Valérie Pécresse, mais qui ces derniers mois avait plutôt donner des gages au patron des LR en signant par exemple une tribune contre le Wauquiez bashing. Et puis en troisième position, un eurodéputé sortant, Arnaud Danjean, ancien soutien d'Alain Juppé lors de la primaire, qui avait les faveurs de Gérard Larcher pour prendre la tête de liste. Un trio assez consensuel donc, qui doit encore être entériné demain par la Commission nationale d'investiture. Se posera ensuite la question de la ligne du projet. Sera-t-il aussi rassembleur que ces trois noms ? Question aussi des autres candidats éligibles, 10 personnes, pas beaucoup plus, et de nombreux prétendants. Entre reconduction des poids lourds sortants, Brice Hortefeux, Nadine Morano ou Rachida Dati et volonté de renouvellement, la bataille à droite est loin d'être terminée.
Au carrefour de l'actualité politique et médiatique, cette nouvelle menace sur la diversité de la presse, le quotidien L'Humanité va-t-il être placé en liquidation judiciaire ? Décision dans les jours à venir, une souscription, une de plus, est ouverte pour essayer de sauver le journal de Jean Jaurès. Les négociations sur l'assurance chômage dans l'impasse, au moins provisoirement. Le MEDEF, le syndicat patronal, annonce suspendre sa participation aux négociations. Il attend une clarification sur la question du bonus-malus sur les contrats courts.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
C'est le pays dont les diplomates quasiment du monde entier suivent l'actualité en ce moment. Les enjeux des jours à venir au Venezuela. Trois points. Petit 1. L'armée va-t-elle continuer à soutenir le président élu, élection contestée, Nicolas Maduro? Petit 2. Des pays européens vont-ils reconnaître le président autoproclamé Juan Guaido? 6 pays européens, dont la France, donnent une semaine à Maduro pour convoquer des élections. Petit 3, l'appel de Guaido à manifester mercredi puis samedi sera-t-il suivi? On verra cela. Le Venezuela, ses réserves de pétrole et d'or gigantesques, ses centaines de milliers de migrants qui fuient la crise. L'envoyé spécial de France Inter est Nathanaël Charbonnier. La crise prend la forme, Nathanaël, d'une inflation délirante.
1 370 000%. C'est selon le FMI l'inflation au Venezuela en 2018. 1 370 000%. Comment imaginer un chiffre pareil? Et surtout, à quoi cela peut-il bien correspondre dans le quotidien des Vénézuéliens? Pour le savoir et le comprendre, voici Yo Maria. Cette femme tient dans sa main des bolivars, la monnaie vénézuélienne, une liasse énorme qu'elle tend en souriant.
Combien j'ai là dans la main?
Il y a quasiment 100 billets de 50 bolivars ici.
Et avec ça, je peux acheter quoi?
Tous ces billets, ces 100 billets, ça ne vaut rien en Venezuela.
Là, je croyais que vous étiez riche, moi.
On était riche, mais on ne savait pas. Mais tout ça, ça vaut rien parce que ça a été dévalué. Donc tout ça ne vaut plus rien.
Cela ne vaut plus rien. C'est comme si 100 billets de 100 euros n'avaient plus aucune valeur. Alors Yo Maria a trouvé la solution pour les rentabiliser. Avec ses liasses, elle fabrique des porte-monnaies tissées avec les billets de banque. 36 billets pour un porte-monnaie qu'elle vend 1,50€ pièce. À Cucuta, Gilles Gallinaro, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Autre histoire de billets en Europe, cette fois-ci le billet de 500€ est en train de disparaître depuis hier soir, racontent nos confrères du Monde. 17 des 19 banques nationales de la zone euro ont cessé d'émettre des billets de 500€. Seule l'Allemagne et l'Autriche en émettent encore. Puisque l'Europe et les États-Unis ont des lois de plus en plus restrictives, les fabricants de cigarettes se tournent vers l'Afrique. Et non seulement ils font le forcing pour y vendre du tabac, mais en plus, selon le rapport d'une organisation suisse, les cigarettes vendues en Afrique sont plus toxiques que les autres. Taux de nicotine plus important, mais pas seulement, Jérémy Lanche.
Outre la nicotine, les analyses réalisées par un laboratoire indépendant montrent que les cigarettes suisses vendues au Maroc ou en Afrique du Sud contiennent des taux plus élevés de monoxyde de carbone et de goudron. L'Afrique n'est pas la première destination des cigarettes suisses, mais c'est la plus prometteuse, explique la journaliste d'investigation Marie Maurice. C'est elle qui a réalisé l'enquête.
Tout le monde en France, en Suisse, en Angleterre arrête de fumer. En Afrique, c'est l'inverse. C'est selon l'OMS le continent qui connaîtra la plus forte augmentation du nombre de fumeurs d'ici à 2050. Et donc, pour les fabricants de cigarettes, ça représente une opportunité commerciale incroyable. Et donc, il faut exporter ces cigarettes vers l'Afrique pour convaincre les jeunes de fumer et avoir ainsi une clientèle qui se renouvelle.
La Suisse abrite les sièges de trois géants du tabac, Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco International. Le secteur rapporte entre 5 et 6 milliards d'euros par an au pays, l'un des seuls pays riches qui n'a d'ailleurs pas ratifié la convention cadre de l'OMS sur la lutte anti-tabac. Un deux poids deux mesures dénoncé par Marie Maurice qui qualifie la Suisse de paradis réglementaire pour les cigarettiers. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et les détails sur ce rapport de l'ONG Public Eye sont sur franceinter.fr. Un ancien président de la République entendu comme témoin dans une enquête. François Hollande entendu ce mois de janvier comme témoin dans le cadre de l'enquête sur la mort de nos confrères d'RFI en 2013. Guylaine Dupont et Claude Verlon. François Hollande était alors à l'Élysée. Deux départs de feu distincts, une porte fracturée, la nature criminelle de l'incendie. Cette nuit, dans les locaux de France Bleu Isère, nos confrères de Radio France à Grenoble ne fait guère de doute. Sur place, Christophe Vincent.
Des policiers et des barrières empêchent l'accès au 27 avenue Félix-Vialet pour les besoins d'une enquête qui ne laisse aucun doute sur la finalité criminelle de l'incendie. Porte fracturée, deux départs de feu au rez-de-chaussée à 2h30 du matin. L'espace commun est dévasté, le feu a détruit les bureaux, les ordinateurs, les archives sonores. Devant les locaux, Pierre Frappa, fondateur de l'école de journalisme de Grenoble.
Il y a eu un acte criminel avec une visée qui était très précise. Ça me révolte, je suis très en colère. Ça me met en rage parce que c'est pas seulement quelques professionnels qui sont visés, c'est vraiment une liberté fondamentale pour tous.
Aucune tension récente avec les gilets jaunes, ni avec quiconque. Laurent Gallien est le journaliste des matinales, il n'a jamais connu ça.
On a été envahi. On avait eu une intrusion, c'était après la crise du CPE. Donc on a déjà eu des conflits, voilà, mais pas. Non, j'ai jamais vu ça, non. Enfin, je n'ai pas souvenir d'ailleurs que ce soit arrivé à une locale de Radio France.
Tout le monde est sonné, mais pas abattu, à l'image du journaliste Gérard Fourgeot.
Maintenant, on a envie de se mettre au boulot, quoi. On veut bosser, on veut faire notre boulot normalement. Hein, il faut qu'on reparte sur les sujets, on ne va pas s'arrêter.
France Bleu Isère réémettra dès 17h des locaux de France 3 à La Tronche. Grenoble, Christophe Vincent, France Inter.
Et la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui dénonce un acte criminel et odieux, doit se rendre à Grenoble cet après-midi. Que la grippe puisse tuer, on le sait. Qu'elle puisse tuer des personnes âgées, on le sait également. Qu'elle tue 6 personnes dans une même maison de retraite, dont 2 soignants, dont des personnes vaccinées, c'est nettement plus inhabituel. Et pourtant, à la chapelle Saint-Mémin, dans le Loiret, 6 personnes sont vraisemblablement mortes d'un syndrome grippal, selon l'Agence régionale de santé. Véronique Julia a soumis ce lourd bilan au virologue Bruno Lina, qui est spécialiste de la grippe. Il est basé au CHU de Lyon. On sous-estime encore et toujours, dit-il, la gravité de la grippe. Il prend pour exemple un bilan annuel récent.
Il y a 2 ans, il y avait eu 14 400 décès. Et parmi ces 14 400 décès, il y en avait plus de 1000 qui étaient observés chez des personnes de moins de 65 ans. Et parmi ces personnes qui avaient moins de 65 ans, au moins 150 d'entre eux n'avaient aucun facteur de risque. Donc, au bout du compte, si vous avez 1000 décès chez des moins de 65 ans, immanquablement, il peut arriver que des soignants qui ont moins de 65 ans, fassent partie de ces gens qui décèdent de la grippe, malheureusement. Et je dirais que, comme les soignants sont exposés aux malades, ils ont même un risque plus important d'attraper la grippe que n'importe qui, puisqu'ils sont chargés de prendre en charge ces malades.
Et le vaccin ne suffit pas à les protéger ?
Non, le vaccin n'est pas suffisant. Mais il faut se rappeler que, même si cette protection elle est loin d'être optimale, elle permet d'éviter plusieurs milliers de décès chaque année en France.
Trop pour recueillir par Véronique Julia. C'est une semaine test pour l'impôt à la source. Les salariés et fonctionnaires vont recevoir le premier bulletin de salaire. Nouvelle époque, les fonctionnaires ont déjà été prélevés, les retraités, les chômeurs, une partie du privé également. Reste précisément 6 millions de salariés du privé. Les transferts de détenus à l'hôpital ou au tribunal, ce sont toujours des moments à risque. Un détenu s'est échappé ce matin à son arrivée au tribunal de Tarascon, Bouches-du-Rhône. Il venait de la prison de Béziers. Il ne s'est pas échappé seul. Des complices lourdement armés ont attaqué le convoi pénitentiaire qui le transportait. À Tarascon, pour France Inter, Isabelle Dor.
L'attaque était soigneusement préparée, une véritable embuscade, très violente, avec 2 hommes masqués, équipés d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing. Ils ont attendu le fourgon du détenu qui, à 8h30, s'est présenté dans la ruelle à l'arrière du palais de justice, devant l'entrée, réservée notamment aux prisonniers. Les agresseurs étaient très déterminés, a précisé le procureur Patrick Desjardins.
Il y avait de toute évidence une détermination qui était absolue d'aller jusqu'au bout pour faire libérer leur comparse. Mais quelqu'un qui est capable effectivement de mobiliser une équipe dont un des membres est équipé d'un fusil d'assaut, on est effectivement sur un profil dans le haut du spectre de la délinquance.
Les agresseurs ont attaqué alors que l'un des agents était descendu du fourgon pour demander l'ouverture du portail. Il a été frappé à coups de crosse. Les complices du détenu ont tiré à plus de 10 reprises en direction du fourgon ensuite, avant de faire sortir leur complice et de s'enfuir dans une voiture garée plus loin. Le détenu, Lotfi Boissac, à 27 ans, totalise 14 mentions sur son casier judiciaire et ce matin, il devait être entendu par le juge pour une affaire de vol aggravé. Tarascon, Isabelle Dor, France Inter.
Il n'y a pas que Michel Houellebecq dans la vie. Il a écrasé la rentrée littéraire de janvier, le Houellebecq. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres bons livres, comme celui-ci, Ilana Mor-Youssef, écrit par une romancière amie.
Les auditeurs de France Inter connaissent bien la voix de Paula Jacques. Elle a longtemps animé l'émission Cosmopolitaine. Souvent, ses romans ont pour toile de fond son Égypte natale. Mais avec ce livre, nous restons en France. Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt, Drôle de titre.
C'est une citation que j'ai trouvée chez le philosophe David Hume, c'est un Écossais, quand il était jeune, à 25 ans, il a écrit « Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une écorchure à son petit doigt ». J'ai trouvé ce titre génial, je dis voilà.
Louison, l'héroïne, a en tout cas fait sienne cette devise. Alors que la guerre vient d'éclater, elle ne pense qu'à s'amuser et à tomber amoureuse.
C'est un personnage très égocentrique, très occupé de ses plaisirs. Et puis finalement, elle a plein d'excuses en réalité. Elle est jeune, elle est belle, l'époque est absolument horrible. Tout le monde se serre la ceinture et elle, elle ne veut pas qu'on la prive des plus belles années de sa jeunesse. Ça peut se comprendre, ça.
Dans la tourmente de la guerre, Louison fait des rencontres providentielles.
Elle va rencontrer ce mafieux qui dirige la pègre à Marseille, mais qui en même temps est un grand résistant de la première heure. Il va lui présenter le jeune homme qui est l'exact opposé d'elle-même. C'est un jeune homme qui ne rêve que de sauver la France. Elle n'a rien à foutre de la patrie, mais elle l'aime.
L'histoire est racontée par la fille de Louison alors que s'engage le combat contre un cancer du sein qu'elle envisage avec la même insouciance que le reste. Qui ne voudrait pas d'une telle force vitale ?
Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt, ce livre signé Paula Jacques, apparu chez Stock. Les jours de carnaval arrivent déjà, tout premier jalon vers la sortie de l'hiver. Le carnaval de Dunkerque commence samedi, c'est l'un des plus fous et des plus longs en France, il dure près de 2 mois. C'est mon actu, chaque lundi, au micro de Sandrine Houdin, dans ce journal. Des personnages nous détaillent leur actualité de la semaine. Aujourd'hui, Pierrot, Georges, Florent, Fred et Laurence, leur actu de la semaine. C'est donc le carnaval. En ce moment de tension en France, besoin de changer d'air.
On a besoin de se mettre la tête ailleurs. Quand on est au carnaval, on pense à rien.
On va se vider la tête, c'est notre exutoire, ça nous vide la tête, on pense plus à rien.
On est dans une bulle populaire en fait. Dès que tu commences à mettre le pinceau sur ton visage, le trait de crayon pour faire ton maquillage, t'es libéré.
Pas de classe sociale.
Il n'y a plus rien, on redevient des êtres humains, chômeurs, pas trop, tout ce que tu veux, avocat, tout ce que tu veux quoi. On fait la fête ensemble quoi.
C'est ça qui fait du bien. On ne peut pas distinguer le directeur d'une boîte, du chômeur, du docker, de n'importe qui.
C'est ça le carnaval. C'est pas des gens bourrés à tous les coins de rue, c'est pas des trucs n'importe quoi, qu'est-ce qu'on peut raconter quoi. C'est le rapprochement des gens, c'est la mixité, c'est trop fort.
On vibre ensemble, c'est ça qui est plus important. C'est lié au passé des pêcheurs à Islande. On revit ce qu'ont vécu nos ancêtres avant de partir pêcher pendant des mois la morue en Islande. Ça veut dire que c'était parfois meurtrier, que c'était très dur. Donc ils ont vécu des fêtes ensemble où ils devaient se souder et se rapprocher parce que de toute façon ils allaient affronter tellement de choses difficiles entre eux que s'ils n'avaient pas cette solidarité, ces choses qui les unissaient, ils n'auraient pas pu faire face à ce qui allait les attendre.
Alors, il y a autre chose qui est très important au carnaval, c'est les chansons.
Mais ton doigt dans le trou de mon cul, ça sent la rose.
Ah oui, il y a un folklore, donc c'est souvent des chansons paillardes.
Et quand ça se finit ? Je suis plus légère, je suis comme vidée. On sent comme si on était parti sur une autre planète. De vivre des choses comme ça, fortes et simples, ça fait trop de bien.
En guerre, quand vient le carnaval.
Allez, on a besoin de fanfare parce que la météo, ces jours-ci, c'est pas carnaval. Hein.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Pour Météo France, Jean-Pierre Hameau.
Cet après-midi, une perturbation essentiellement nuageuse va intéresser les régions allant de la Bretagne à l'Aquitaine et jusque vers Midi-Pyrénées. La neige va tomber en abondance sur les Pyrénées. Soyez vigilants, le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle de 5. Du Grand Est à la Franche-Comté jusque vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel restera très nuageux avec quelques averses sous forme de neige. Et partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions. Les températures maximales afficheront 3 à 6 degrés entre le nord et le nord-est, 7 à 10 sur la moitié ouest, comptez 9 à 14 dans le sud-est. Demain, prévoyez un temps pluvieux sur une grande partie ouest du pays, du vent fort près des côtes atlantiques. Et attention, on prévoit la nuit suivante un épisode neigeux des Pays de Loire à la Normandie, de la région centre à l'Île-de-France et jusque vers les Hauts-de-France.